nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse cette divine consolation par le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pilice, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous commençons aujourd'hui le dernier traité de la Somme théologique de Saint Thomas, celui sur les fins dernières. Donc c'est le traité qui va clore le supplément de la Somme et qui couvre les questions 69 à 99 de la Somme. Ce traité est un traité facile et qu'il faut bien méditer. Tous les pères de l'Église et le catéchisme lui-même enseignent que la méditation sur les fins dernières et certainement la meilleure des choses à faire pour éviter le péché. Saint Thomas va bien le dire d'ailleurs dans son introduction au traité sur les fins dernières. Après, dit-il, avoir parlé des sacrements qui délivrent l'homme du péché qui est une mort, il est logique de parler de la résurrection qui délivre l'homme de la mort qui est une peine. Je vous lis le texte du catéchisme de Saint Pédis sur ce sujet, c'est au chapitre 7 du catéchisme, les fins dernières et les autres moyens principaux pour éviter le péché. Voilà ce que dit Saint Pédis. Il répond à la question « Qu'entendez-vous par fin dernière ?» Voilà sa réponse. Les saints livres appellent fin dernière les dernières choses qui arriveront à l'homme. Il y a pour l'homme quatre fins dernières, la mort, le jugement, l'enfer et le paradis. Et ces choses sont appelées fins dernières, dit Saint Pédis, parce que la mort est la dernière chose qui lui arrivera en ce monde. Le jugement de Dieu, le dernier des jugements que nous devons subir. L'enfer, le mal extrême pour les méchants. Et le paradis, le souverain bien pour les bons. Puis notez la pensée de Saint Pédis. Il est bon, dit-il, de penser aux fins dernières chaque jour, et particulièrement en faisant sa prière le matin au réveil, le soir avant le repos, et toutes les fois que nous sommes tentés de faire le mal, parce que cette pensée est très efficace pour nous faire éviter le péché. Méditons les fins dernières. Et nous ne pécherons pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si nous gardons dans notre esprit la pensée de la mort, la pensée des jugements, jugement particulier après notre mort, jugement général à la fin des temps, la pensée du paradis, la pensée des peines du purgatoire et malheureusement des peines de l'enfer aussi, eh bien il est beaucoup plus facile à ce moment-là d'éviter le péché. Alors, avançons un petit peu donc dans ce magnifique traité de Saint Thomas. Donc, il commence par la question 69 du lieu des âmes après la mort. Il se pose la question de savoir s'il y a certaines demeures assignées aux âmes après la mort. Alors, je dis tout de suite que selon les catéchismes, il y a plusieurs classifications possibles des fins dernières. Certains catéchismes, même traditionnels, distinguent entre le jugement particulier et le jugement général. Donc on peut avoir un classement soit en 4 fin dernière, soit en 5, soit même en 6. Bon, parfois on met la mort, le purgatoire, le paradis, l'enfer, le jugement particulier, le jugement général et les limbes pour les enfants morts sans baptême. Et l'esprit est toujours le même. Les fins dernières, c'est ce qui se passe à la fin de notre vie. Donc saint Thomas se pose d'abord la question de savoir quelles sont les demeures assignées aux âmes après la mort. Voilà ce qu'il dit. Les âmes qui participent parfaitement à la divinité, nous les mettons donc dans le ciel, mais celles qui en sont empêchées, nous les plaçons au contraire dans le lieu inférieur. Ce lieu inférieur, c'est évidemment le lieu de l'enfer. Alors, attention, un point important, j'étais surpris de voir que même certains catholiques, bon, je pense influencés par les idées modernes, penser que l'enfer et le paradis ne commenceraient qu'à la fin des temps, c'est-à-dire après le jugement général. C'est totalement faux. Il est de foi que, après le jugement particulier, c'est-à-dire à la mort de chaque individu, au moment de la séparation entre notre corps et notre âme, il y a déjà tout de suite un résultat pratique pour chaque âme qui va se retrouver donc ou en enfer malheureusement pour ceux qui sont damnés ou au ciel ou au purgatoire et cas d'exception pour les enfants aux morts sans baptême ou les adultes qui n'ont jamais commis de péché mais qui n'ont pas été baptisés dans les limbes. Donc saint Thomas va citer saint Paul. Nous savons que si cette tente, notre demeure terrestre vient à être détruite, nous avons une maison qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'est pas faite de main d'homme dans le ciel. Donc, conclut saint Thomas, après la dissolution du corps, l'homme a une demeure qui l'attend dans le ciel. Il faut affirmer, dit-il, que les âmes des saints vont au ciel et que certaines âmes vont en enfer aussitôt après la mort. Il cite saint Luc, le riche mourut et il fut enseveli dans l'enfer. Il est évident que la prédication sur les fins dernières est une aide considérable pour aider les âmes à se convertir. L'enfer, disent les pères de l'Église, est le grand missionnaire du ciel. C'est aussi une création de la miséricorde du bon Dieu. Des millions d'âmes sont au ciel qui n'y seraient sans doute pas si il n'y avait pas la foi en le châtiment de l'enfer pour les pécheurs qui refusent de se convertir. En quelque sorte, le bon Dieu, de cette façon, nous oblige, on peut dire ça comme ça, le bon Dieu nous oblige à vivre en état de grâce. Il nous dit en quelque sorte, si ben, tu ne veux pas me suivre par amour, ben, tu vas me suivre par crainte. Il vaut mieux suivre le bon Dieu par crainte que de refuser de le suivre complètement et se retrouver avec une porte close, fort fermée pour nous, pour aller au ciel, pour aller au paradis. Cependant, il est évident que l'existence des châtiments terribles de l'enfer pour les hommes qui vivent en état de péché mortel et surtout qui meurent en état de péché mortel ne doit pas faire oublier la nécessité pour nous de viser quelque chose de supérieur. C'est-à-dire, je dis toujours aux gens quand je prêche les exercices saint-Ignace, vous ne pourrez pas passer votre vie en état de grâce si l'unique raison pour laquelle vous restez en état de grâce, c'est la peur de l'enfer. Il faut passer au niveau supérieur et demander la grâce de la contrition parfaite pour nos péchés. Pas simplement regretter nos péchés par peur de l'enfer, mais regretter nos péchés par amour pour le bon Dieu. Si notre Seigneur Jésus-Christ, dans les quatre évangiles, parle 63 fois de l'enfer, de ses conséquences, c'est pas pour rien. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Donc nous sommes toujours dans la question numéro 69. Voilà ce qu'il dit. Si rien n'y met obstacle, les corps obéissent à la gravitation et atteignent le lieu qui leur convient. De même, les âmes, après la rupture du lien corporel qui les retenait ici-bas, c'est-à-dire la séparation entre le corps et l'âme, ces âmes reçoivent leur récompense ou leur châtiment si rien n'y met obstacle. Obstacle qui peut venir par exemple du péché véniel, qui exige une purification et empêche la récompense d'être immédiate. Là, il parle des peines du purgatoire. De plus, Comme le lieu qui est assigné à une âme correspond à la récompense ou au châtiment qu'elle a mérité, aussitôt que cette âme est séparée du corps, elle est engloutie en enfer et elle s'envole au ciel, à moins, en ce dernier cas, qu'une dette envers la justice divine ne retarde son envolée en l'obligeant à une purification préalable. Bon. On verra tout ça au fur et à mesure, qu'on avance dans ce traité, mais il est évident que bien rares sont ceux qui peuvent aller directement au ciel, sans passer par les peines du purgatoire. Seuls les enfants, les bébés qui meurent après le baptême vont directement au ciel, et puis évidemment les gens qui meurent dans un acte de charité parfaite, par exemple les martyrs. J'ai lu dans un sermon du Saint Curé d'Ars qu'il parlait d'un saint, je crois que c'était Saint Saturnin, évêque d'Arles, qui avait passé quelque temps au purgatoire pour des prières qu'il aurait dû dire le matin et qu'il a dit l'après-midi. Donc Saint Thomas conclut en disant que cette vérité, donc de l'existence du paradis et de l'enfer, est proclamée avec évidence par les Écritures et les ouvrages des Saints-Pères. Et donc sa négation doit être regardée comme hérétique. On dit, et c'est sans doute vrai, que le plus grand coup du démon, je crois que c'est le cardinal Pie qui disait ça, le plus grand coup du démon, c'est d'avoir fait croire qu'il n'existait pas. Ensuite, saint Thomas va citer saint Augustin. Il faut ranger, dit-il, le ciel et l'enfer parmi les demeures mystérieuses. Ciel et enfer où il y a des âmes même avant la résurrection générale à la fin des temps. Ce qui distingue le temps qui précède celui-ci et le temps qui la suit, c'est l'absence ou la présence du corps et aussi le fait que certaines demeures qui contiennent aujourd'hui des âmes n'en contiendront plus après la résurrection. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au moment de la mort, il y a séparation entre notre corps et notre âme, c'est ça qu'on appelle la mort. Et par cette séparation entre le corps et l'âme, on passe du temps à l'éternité. Le temps est nécessaire pour qu'il y ait un changement. Je t'ai expliqué ça souvent, donc je reviens. Je ne veux pas réexpliquer tout complètement, mais au moins rappeler les principes. Pour changer, il faut du temps. On ne peut pas changer sans temps. Une fois qu'on quitte le temps et qu'on passe dans l'éternité, l'éternité c'est quoi ? L'éternité par définition même, c'est l'absence de temps. Si l'éternité est une absence de temps, le changement est impossible dans l'éternité parce que justement on a besoin du temps pour changer. Donc, les pères de l'Église expliquent tous que lorsqu'on passe dans l'éternité, avant d'être dans l'éternité, on peut changer une âme, peut-être en état de grâce, malheureusement perdre l'état de grâce pour le péché mortel, mais récupérer cet état de grâce, par exemple, par un acte de contrition parfaite ou une bonne confession. Et ensuite, reperdre cet état de grâce, la regagner de nouveau, regagner l'état de grâce de nouveau. Mais une fois que cette âme meurt, c'est-à-dire une fois qu'il y a séparation entre le corps et l'âme, puisque l'âme ne peut pas mourir, on quitte le temps, on passe dans l'éternité. Et tel qu'on tombe dans l'éternité, on reste dans l'éternité, par définition, sans fin, puisque l'éternité, c'est l'absence de temps. Et donc, si une âme arrive dans l'éternité en état de grâce, elle va garder cet état de grâce pour toujours, puisqu'elle ne peut plus changer. Si malheureusement cette âme tombe dans l'éternité en état de péché mortel, elle va garder l'état de péché mortel, donc l'état de révolte contre Dieu pour toute l'éternité. C'est ça qu'il faut, il faut vraiment méditer sur ces choses-là, parce qu'actuellement on peut changer. Une fois qu'on est passé dans l'éternité, on ne peut plus changer. Alors avançons dans les explications que donne saint Thomas. Il cite cette fois-ci saint Grégoire le Grand. Si les âmes des saints sont dès aujourd'hui dans le ciel, que recevront-ils donc au jour du jugement comme prix de leur vertu ? Il répond en disant un merveilleux accroissement jusque-là. Leurs âmes seules goûtent le bonheur qui est leur récompense. Mais alors ils jouiront de la béatitude de leur corps, ils seront heureux dans cette même chair dans laquelle ils ont enduré les douleurs et les tourments pour le Seigneur. La même distinction s'applique, dit-il, également aux damnés. N'oublions pas qu'il y a deux jugements, on va voir ça après dans les détails, Il y a un jugement particulier au moment de la mort, au moment de la séparation entre le corps et l'âme, et qu'il y aura un jugement général à la fin des temps, avec la résurrection de tous les corps. Donc, au moment du jugement général, à la fin du monde, le corps va rejoindre de nouveau l'âme qui l'avait animé pendant sa vie sur la terre. Et donc, le corps va s'appairer en quelque sorte avec l'âme. Si l'âme est en enfer, malheureusement, le corps va aller en enfer souffrir avec l'âme. Si l'âme est au paradis, le corps va aller, un corps glorieux, va aller rejoindre l'âme au ciel. Alors, Saint-Thomas ensuite va commencer à répondre à certaines objections. C'est intéressant de voir que les objections auxquelles répond Saint-Thomas au XIIIe siècle correspondent aux mêmes objections, aux mêmes bêtises qu'on entend aujourd'hui. Il y a toujours les mêmes objections. Entre autres, même des catholiques, j'ai entendu des catholiques, et parfois même des catholiques dans la tradition, qui pensent qu'à la fin du temps, il y aura une réconciliation universelle. C'est une sorte de millénarisme. Hein. C'était Origène qui a dit des bêtises sur le sujet. C'est une des raisons aussi pour laquelle Origène n'a jamais été canonisé par l'Église. Certaines personnes pensent que à la fin des temps, il y aura une réconciliation universelle et que le bon Dieu prendra tout le monde avec lui au ciel et que l'enfer sera éteint. Donc saint Thomas pose la question, c'est l'article 3 de la question 69, les âmes qui sont au ciel ou en enfer peuvent-elles en sortir? En fait, j'ai déjà répondu quand j'ai dit que qui dit éternité dit absence de changement possible. Donc, une fois qu'une âme est au ciel ou en enfer, elles ne peuvent plus changer puisqu'elles ne sont plus dans le temps. N'oublions pas, j'ai souvent expliqué ces choses-là, j'en parle très souvent en sermon, que pour changer, il faut trois choses, trois conditions. Il faut du temps d'abord, parce qu'on ne change pas en 5 minutes. Il faut la grâce du bon Dieu et il faut l'usage de notre liberté. Ici-bas, nous n'avons ni temps, ni usage de liberté, ni grâce de Dieu. Une fois, excuse-moi, je reprends. Quand on sera après la mort, donc après avoir quitté ce monde ici-bas, il n'y aura plus de temps, plus d'usage de notre liberté, plus de grâce. Donc ici-bas, au contraire, on a encore la possibilité d'avoir du temps, on a la grâce du bon Dieu, on a l'usage de notre liberté, donc on peut changer. Mais après la mort, ce n'est plus possible. Donc voilà ce que dit saint Thomas. Il parle de l'expression sortir de l'enfer ou du paradis. Et voilà ce qu'il répond. En sortir définitivement de telle sorte que le paradis ou l'enfer ne soit plus le lieu de l'âme. En ce sens, aucun de ceux que la sentence irrévocable a fait entrer au ciel ou en enfer ne peut en sortir. Donc Dieu peut permettre, selon l'ordre providentiel, dit saint Thomas, il peut permettre que certaines âmes séparées sortent de leur demeure et apparaissent aux hommes. Donc il y a eu des cas d'âmes du purgatoire qui sont apparues à des humains ici sur la terre. Et il y a le cas d'âmes, malheureusement, en enfer, qui sont apparues, de démons même, qui sont apparus directement à certaines personnes ici-bas sur la terre, ou même des âmes du ciel, des bienheureux, qui apparaissent d'une certaine façon aux hommes ici-bas, dans certains cas. Ça, c'est tout à fait possible. Mais ce ne sont pas des sorties définitives. Donc, une fois qu'on est en enfer ou qu'on est au ciel, cette présence au ciel ou en enfer est une présence définitive, puisqu'on est, encore une fois, on n'est plus dans le temps. Alors, donc saint Thomas donne quelques exemples. Saint Augustin, par exemple, raconte que le martyr saint Félix se montra aux habitants de Noa alors qu'il était assiégé par les barbares. Hein? On peut croire la même chose, dit-il, des damnés dont Dieu permet parfois l'apparition dans le but d'instruire et de terrifier, comme aussi des âmes du purgatoire qui viennent implorer des suffrages, ainsi que saint Grégoire en cite de nombreux exemples. Quant aux damnés, ils peuvent aussi le faire de même, mais Dieu ils ne peuvent le faire de même, mais Dieu le leur permet quelquefois, justement, pour convertir les gens. Il y a des tas de conversions qui ont été provoquées par des apparitions dame du purgatoire ou, dans certains cas même, dame de l'enfer. Il y a plusieurs cas extraordinaires, notamment dans la vie de Saint Grégoire le Grand, qui cite, si mes souvenirs sont exacts, j'ai eu ça il y a longtemps, un cas d'un moine qui était considéré comme un saint dans son monastère, dans lequel était Saint Grégoire. Il était supérieur du monastère en question avant d'être pape. Et donc ce moine, considéré comme un saint, meurt. Et au cours de la cérémonie de la messe de Requiem, cette âme s'est mise à parler. Cet homme mort s'est mis à parler, à révéler qu'il avait caché des pièces d'or, il avait récupéré je ne sais pas comment, dans son habit, cousu dans son habit, et qu'à cause de ce manque grave à son vœu de pauvreté, il avait été damné. Bon, il est évident que dans un cas comme ça, ça aide les gens à réfléchir, à convertir complètement les moines s'ils avaient besoin d'être convertis. Il y a également l'exemple très connu de Raymond Diocres, qui était un professeur de l'Université de Paris, qui a parlé trois fois pendant son enterrement, alors que une bonne partie de la ville de Paris assistait à l'enterrement de ce professeur qui était très connu, et entre autres, Bruno, le futur Saint Bruno, fondateur des Chartreux, assistait à cet enterrement, et trois fois le corps s'est réveillé en quelque sorte pendant son enterrement en disant au juste jugement de Dieu, j'ai été appelé et j'ai été jugé, puis j'ai été condamné. Ça a provoqué le départ du monde de Saint Bruno, qui a quitté à ce moment-là l'université de Paris pour aller se réfugier dans le diocèse de Grenoble avec, je crois, six de ses camarades pour fonder l'ordre de la Chartreuse dans le désert de la Chartreuse près de Grenoble. Donc le bon Dieu permet parfois l'apparition de la dame du purgatoire, dame de l'enfer ou dame du paradis pour justement convertir les gens. C'est évident que ça fait quand même sérieusement réfléchir. Alors, Saint Thomas se pose aussi la question du sens d'une expression un peu bizarre qu'on rencontre souvent dans l'écriture sainte, le paradis d'Abraham ou le saint d'Abraham, les limbes d'Abraham. Est-ce que c'est la même chose que l'enfer? C'est un problème dans plusieurs langues où le mot enfer a plusieurs sens. En général, même en français, l'enfer au singulier représente le feu de l'enfer, le lieu de présence des damnés. Mais les enfers au pluriel a souvent un sens différent. Et dans ce cas-là, souvent, surtout dans les textes anciens, textes du Moyen-Âge par exemple, les enfers au pluriel représentaient souvent le lieu d'attente des âmes de l'Ancien Testament avant que les portes du ciel soient réouvertes. C'est d'ailleurs dans le Credo. Il est descendu aux enfers et ressuscité des morts le troisième jour en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ qui descend aux enfers, c'est une question qu'on nous pose très souvent. Tout pendant l'exercice, quand j'explique ces choses-là pendant l'exercice saint-ignace, les gens me demandent, mais monsieur l'abbé, comment notre Seigneur Jésus-Christ a-t-il pu descendre, voir le démon dans l'enfer? C'est qu'il n'est pas descendu dans l'enfer, mais dans les enfers. En fait, c'était ce lieu, justement, qui était une salle d'attente pour les millions de justes qui étaient morts dans l'Ancien Testament. Pendant le temps de l'Ancien Testament, depuis le paradis, le péché originel d'Adam et Ève, les portes du paradis étaient fermées. Portes du paradis étant fermées, toutes les âmes qui sont mortes en état, qui sont passées d'ici-bas à l'autre monde en état de grâce, ne pouvaient pas aller au ciel puisque les portes en étaient fermées. Elles attendaient donc dans un lieu spécial qu'on appelait le Saint d'Abraham ou les limbes. Alors voyons ce que dit Saint Thomas sur ce sujet. Les âmes des justes n'ont pas toujours joui du même repos. Après la venue du Christ, c'est la plénitude du repos par la vision béatifique. Pourquoi ? Parce qu'après la venue du Christ, le Christ, par sa résurrection, a réouvert les portes du paradis. Bon, strictement parlant, les portes du paradis ont été... Le paradis a été réouvert avec la montée au ciel de notre Seigneur Jésus-Christ le jour de l'Ascension, 40 jours après Pâques. Cependant, strictement parlant, déjà par sa descente aux enfers, donc descente dans ce lieu d'attente des âmes du purgatoire, des âmes justes qui étaient qui attendaient la montée au ciel, par sa descente aux enfers au pluriel, juste après sa mort, donc pendant les 36 heures qui ont séparé la mort de notre Seigneur Jésus-Christ de sa résurrection, donc notre Seigneur est descendu aux enfers, visiter les âmes qui attendaient parfois depuis des milliers d'années, puisque entre la mort d'Adam et Ève, qui d'après la tradition des pères sont sauvés parce qu'ils ont pu faire pénitence après leur péché, depuis Adam et Ève jusqu'à l'arrivée de notre Seigneur, il s'est passé entre 5 et 7 000 ans. Et donc, par sa descente aux enfers, notre Seigneur a déjà, en quelque sorte, transformé ce lieu au paradis. Voilà ce que dit saint Thomas. Après la venue du Christ, c'est la plénitude du repos par la vision béatifique. Auparavant, c'était le repos par l'absence de toute peine. Mais ce n'était pas encore le repos du désir satisfait, puisque la fin dernière était encore à atteindre. Dès lors, l'état des âmes justes avant la venue de Jésus-Christ nous apparaît à la fois comme un repos, en ce sens c'est le sein d'Abraham, mais comme un repos encore incomplet, en ce sens c'est un limbe des enfers. Donc, avec l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, après sa mort le Vendredi Saint, donc ce lieu va déjà être transformé, en quelque sorte, en un lieu de joie indicible, justement, par la venue de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est descendu aux enfers avec son âme, puisque son corps est resté dans le tombeau, évidemment, pendant la période de temps depuis la mort de notre Seigneur le Vendredi Saint, 3 heures de l'après-midi, jusqu'à la résurrection le jour de Pâques, le matin de Pâques. Et donc, l'âme de notre Seigneur Jésus-Christ, on verra ça plus tard, l'âme unie à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ est descendue aux enfers, et à cause de la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ jointe à son âme, eh bien, cette âme divine, unie à la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, va donner une joie indicible à toutes les âmes qui attendaient dans ce lieu. Alors, nous avançons. Il répond à la conclusion de l'article, c'est la suivante, d'après saint Thomas, le sein d'Abraham, c'est donc le repos des bienheureux pauvres auxquels appartient le royaume des cieux. Alors, il précise ensuite les choses, pour être sûr que les gens comprennent bien, en se posant la question, est-ce que les limbes des patriarches sont différents, sont autre chose que l'enfer des damnés? Il répond en disant, les limbes des patriarches, où étaient les âmes donc de tous les justes de l'Ancien Testament, n'est pas identique à l'enfer. On a un peu trop tendance à oublier que beaucoup d'âmes de l'Ancien Testament, c'était des très très grands saints. On voit par exemple la façon dont notre Seigneur Jésus-Christ lui-même parle, par exemple, s'appelle lui-même fils de David, pour bien montrer que la grandeur du roi David, je pense à d'autres très grands saints comme par exemple Élie, Élisée, Isaïe, Jérémie, Daniel, tous ces grands patriarches de l'Ancien Testament, ces grands prophètes de l'Ancien Testament, beaucoup évidemment de très grands saints. Alors on a un peu trop tendance à les oublier, tout simplement parce que dans l'Église universelle, il n'est pas habituel de célébrer les fêtes des saints de l'Ancien Testament. Il n'y a pas, par exemple, une fête de Saint Isaïe ou de Saint Jérémie ou de Saint David. On fête les saints du Nouveau Testament. Cependant, quand vous prenez, par exemple, le texte du Martyrologe, donc le livre officiel qui contient la liste de tous les saints canonisés, vous avez, dans le Martyrologe, à plusieurs reprises, vous avez un rappel de la sainteté, justement, de ces grands saints de l'Ancien Testament. Donc, saint Thomas conclut en disant que les limbes des patriarches et l'enfer des damnés sont différents, puisque celui-ci est un lieu de tourment et de tourments éternels, tandis que celui-là, les limbes des patriarches, était un lieu de détention temporaire, d'où la souffrance était absente. Alors, il n'y a pas d'enseignement de l'Église sur le lieu de ce limbe des patriarches. Où est-ce que c'était? On ne sait pas. D'autant plus que les limbes des patriarches, en tant que telles, ont aujourd'hui disparu. Les limbes des patriarches disparaissent, ont disparu, puisque ce lieu a été transformé en paradis. Donc, il y a des lieux qui demeurent et des lieux qui ne demeurent pas. Je vous ai dit que lorsqu'on passait de vie à trépas, on passait dans l'éternité. Cependant, il y a une exception. Cette exception, c'est le purgatoire. Le purgatoire est un lieu dans le temps, c'est-à-dire que les âmes qui sont dans le purgatoire, pour purifier, se purifier avant de monter au ciel, ne sont dans le purgatoire que pour un temps déterminé par la miséricorde du bon Dieu. Alors, si l'enfer est éternel, si les lames des enfants morts sans baptême est éternel, si le pur paradis est éternel, par contre, le purgatoire est dans le temps. Alors, avançons dans le texte de saint Thomas. Alors, saint Thomas continue ses distinctions, et cette fois-ci, il se pose la question, on est à la question 69, l'article 6, est-ce que les limbes des enfants sont les mêmes que les limbes des patriarches? Alors, voilà ce qu'il répond. De même que le péché actuel est puni d'une peine temporelle en purgatoire et éternelle en enfer, de même le péché originel l'était d'une peine temporelle dans les limbes des patriarches, éternelle dans celui des enfants. Donc, d'une part la peine temporelle dans les limbes des patriarches, d'autre part une peine éternelle dans celui des enfants. Dès lors, puisque l'enfer et le purgatoire ne sont pas dans le même lieu, il semble que les limbes des patriarches et celui des enfants ne sont pas non plus. Alors attention, on va après expliquer les choses. Quand saint Thomas parle d'une peine éternelle pour les enfants morts sans baptême, c'est tout simplement que l'Église enseigne, et a toujours enseigné, enseignera jusqu'à la fin des temps, que le péché originel dans une âme est un obstacle insurmontable à l'arrivée au paradis. Une âme atteinte du péché originel ne peut pas entrer au paradis, même si le petit cœur sensible des gens modernes n'accepte plus cette doctrine, c'est toujours le cas, cela ne changera jamais. Donc un enfant qui meurt, un bébé qui meurt après le baptême, et je veux dire qui meurt avant le baptême, qui meurt sans le baptême, est marqué du péché originel, puisque toutes les âmes sont marquées du péché originel, sauf l'âme de notre Sainte Vierge Marie et notre Seigneur Jésus-Christ dans son humanité. Donc un enfant qui meurt sans baptême ne peut pas aller au ciel à cause du péché originel. Cependant, il n'est coupable d'aucun péché actuel, il n'est pas responsable d'aucun péché, il n'a que le péché originel, qui n'est pas un péché personnel, mais un péché de nature. Et donc, à cause de ce péché originel, l'âme d'un bébé mort sans baptême ne peut pas aller au ciel. C'est absolument impossible. Et donc, elle va aller dans ce lieu qu'on appelle les limbes des enfants morts sans baptême, l'âme des enfants. Et dans ce lieu, c'est surtout l'enseignement notamment de saint Robert Bellarmin, ces enfants ne souffrent pas dans le sens que ils ne savent pas qu'ils avaient été créés pour Dieu. Dieu, dans sa miséricorde, ne va pas révéler aux âmes des enfants morts sans baptême qu'ils ont été créés pour Dieu. Et donc, ils ne souffrent pas de l'absence de Dieu puisqu'ils ignorent tout sur lui. Ils sont dans une espèce de bonheur philosophique, qui n'est évidemment pas du tout le bonheur du ciel, mais ils ne souffrent pas d'une souffrance physique comme, par exemple, les peines de l'enfer, parce qu'ils ne sont pas responsables d'un péché personnel. Mais cependant, il y a quand même une peine, et cette peine, c'est une espèce de peine du dent, si vous voulez, on verra tout ça après, peine du dent dans le sens que ces âmes ne verront jamais Dieu, mais n'en souffrent pas parce qu'elles ignorent tout sur Dieu. Alors, précisons un petit peu les choses, donc justement avec saint Thomas d'Aquin. La condition des patriarches, dit-il, patriarches et les juges de l'Ancien Testament, la condition des patriarches et celle des enfants n'était pas la même par rapport au péché originel. Car chez les premiers, les patriarches, ce péché était expié pour autant qu'il atteint la personne humaine. N'oubliez pas que notre Seigneur Jésus-Christ a institué le sacrement de baptême. Donc, pour l'Ancien Testament, il n'y avait pas de baptême. Le sacrement de baptême n'existait pas encore. Seigneur Jésus-Christ va instituer le baptême par son propre baptême, par saint Jean-Baptiste dans les eaux du Jourdain. Mais avant l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, le péché originel était effacée par l'utilisation de toutes ces purifications qui existaient pour les Juifs de l'Ancien Testament. Par exemple, la circoncision pour les hommes et toute une série de purifications qui existaient pour ces Juifs de l'Ancien Testament. Donc, chez les patriarches, le péché originel était expié, pour autant qu'il atteint la personne humaine, il constituait cependant encore un empêchement du côté de la nature humaine jusqu'à la satisfaction plénière et universelle du Christ. Mais chez les enfants, morts sans baptême, il demeurait et demeure à l'état de double empêchement personnel aussi bien que naturel. C'est pourquoi on distingue donc les limbes des patriarches, qui n'existent plus, des limbes des enfants, qui existent toujours. Très bien, donc l'Église catholique a toujours enseigné l'existence des limbes pour les enfants morts sans baptême, d'où la nécessité de baptiser les enfants au plus vite. C'est un peu malheureux de voir parfois, même dans la tradition, parfois des parents qui ne comprennent pas du tout ces choses-là et qui attendent parfois pendant des semaines et des semaines avant de baptiser un bébé dans la famille, tout simplement parce qu'ils veulent absolument que toute la famille soit là, que le parrain soit là, que la marraine soit là le jour du baptême. Et donc ils attendent. J'ai vu des familles de la tradition, des parents qui attendaient presque un mois avant de baptiser un enfant, ce qui est tout à fait anormal. Tout à fait anormal. Et quand je me demande ce que j'en pense, je dis, mais écoutez, est-ce que vous allez attendre un mois avant de nourrir votre bébé? Vous le nourrissez immédiatement parce qu'il a besoin, son corps a besoin de nourriture. De la même façon, l'âme du bébé a besoin de nourriture. Il ne faut pas oublier une chose qu'on ne réalise pas du tout, malheureusement pas assez, c'est que l'âme d'un bébé avant le baptême, littéralement, appartient au démon. Le démon est propriétaire de l'âme d'un enfant mort sans baptême. Une fois que le baptême a lieu, l'âme change de propriétaire, littéralement. Et à ce moment-là, ça appartient à Dieu. Mais le démon est littéralement propriétaire des âmes avant le baptême. D'où l'importance du baptême. N'attendez pas avant de baptiser vos enfants. Avant, dans les temps de foi, le baptême avait lieu le jour de la naissance. Bon, c'était peut-être plus facile dans le sens qu'il y avait des prêtres partout, il n'y avait pas un village sans prêtre. Et évidemment, il était plus facile pour les parents de faire baptiser un enfant le jour du baptême, du jour de la naissance. Une deuxième chose importante à savoir, c'est que si vous avez choisi un parrain ou une marraine qui habitent assez loin, qui ne peuvent pas venir le jour du baptême, l'Église a toujours accepté l'existence d'un parrain ou d'une marraine par proxy, par procuration, qui représente, une autre personne va représenter le parrain et la marraine pour permettre justement que les enfants soient baptisés le plus tôt possible. Alors, à la question 69, article 7, saint Thomas va distinguer donc les différentes demeures dans lesquelles une âme peut aller après la mort. Alors voilà ce qu'il dit. Encore une fois, je vous ai déjà expliqué, il y a plusieurs façons de classer ces différentes demeures. Entre autres, dans certains catéchismes traditionnels, on sépare le jugement particulier et le jugement général. Et voilà ce que dit saint Thomas. Donc, si après la mort, une âme, dit saint Thomas, est en état de recevoir donc sa récompense d'une manière définitive, cette récompense du bien qu'elle a fait, c'est le paradis, première demeure. La punition du péché actuel et mortel qu'elle a commis, pour une âme qui a le malheur de mourir en état de péché mortel, c'est l'enfer des damnés, deuxième lieu. Troisièmement, la punition du seul péché originel, c'est les limbes des enfants, pour les enfants morts sans baptême, les bébés morts sans baptême. Troisième lieu, quatrième lieu, s'il est un empêchement à ce caractère définitif, il peut venir ou de la personne, et c'est le purgatoire, dans lequel les âmes sont retenues chez l'expiation des péchés commis, donc zone lieu de purification, c'est le quatrième lieu, et enfin, la seule nature humaine, et c'était le limbe des patriarches, où les retenait une humanité pour laquelle le Christ n'avait pas encore souffert et expié. Donc j'ai déjà expliqué que ce limbe des patriarches n'existe plus aujourd'hui. Alors, saint Thomas conclut l'article en disant, puisque l'âme, la personne qui meurt avec le péché originel seulement, donc sans péché personnel, n'a pas la grâce sanctifiante, puisque la grâce sanctifiante est donnée par le baptême, il n'est pas déraisonnable de le condamner à une punition éternelle pour les péchés véniels qu'il a commis. Bon, ça, c'est pour le cas d'un adulte, par exemple, non baptisé, qui a pu commettre des péchés véniels. Bon, un adulte non baptisé qui a commis que des péchés véniels, si ça existe, ne peut pas aller au ciel parce que il n'a pas le baptême, mais il ne va pas aller non plus en enfer, puisqu'il n'a pas comme péché mortel sur la conscience. C'est le péché mortel qui condamne à l'enfer. Donc, d'après saint Thomas, celui qui meurt avec le péché originel joint des péchés véniels, donc celui qui meurt donc sans le baptême, avec le péché originel, mais avec aussi des péchés véniels, également dans ce lieu qu'on appelle les limbes des enfants morts sans baptême. Et donc, et là, c'est important de rappeler ces choses-là, surtout aujourd'hui où les limbes des bébés morts sans baptême est un point de doctrine complètement nié par les modernes, mais aussi parfois dans la tradition, malheureusement. Donc, faire attention, même si ces messieurs de l'Église de Vatican II estiment que les limbes pour les bébés morts sans baptême n'existent pas, ils ont contre eux tout l'enseignement de l'Église. Alors, passons à la question 70 maintenant, à savoir la condition de l'âme séparée du corps et la peine que peut lui affliger un feu corporel. Alors, saint Thomas se pose d'abord la question de savoir si les puissances sensibles demeurent dans l'âme séparée. Alors, puisque la mort signifie la séparation du corps et de l'âme, donc il est évident que puisque les puissances sensitives dépendent du corps, s'il y a une séparation entre le corps et l'âme, l'âme étant séparée du corps, ces puissances sensitives n'existent plus. Alors, les puissances sensitives ou sensibles demeurent dans l'âme séparée, mais pas formellement, mais radicalement, à la manière dont les effets sont contenus dans leur cause. En d'autres termes, l'âme séparée conserve, dit saint Thomas, l'énergie capable de produire à nouveau ses puissances si elle est unie au corps, sans qu'il soit nécessaire de faire de cette énergie quelque chose de surajouté à l'âme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, il faut comprendre, pour répondre, il faut se rappeler la doctrine de l'Église sur le sujet. C'est qu'une âme, c'est le corps qui a une puissance sensible, pas l'âme. L'âme est une substance séparée, une substance spirituelle douée d'intelligence et de volonté capable de connaître Dieu et de le posséder, comme dit saint Thomas, comme dit saint Pédis. Bon. Donc l'âme en enfer, cependant, de par la volonté du bon Dieu, va avoir une souffrance, littéralement, on pourrait dire pratiquement physique, bien qu'il n'y ait pas encore le corps. Le corps est à ce moment-là, jusqu'à au jugement général à la fin des temps, les corps des âmes séparées sont dans le purgatoire, ne sont pas, pardon, excusez-moi, dans les cimetières, mais l'âme d'un individu qui est en enfer a une souffrance qu'on appelle justement la peine des sens. Bon, ce qui semble bizarre parce que justement le corps n'est pas lié à l'âme. Cependant, l'âme en enfer a une souffrance physique qu'on appelle justement la peine des sens. On verra ça plus tard. Donc, l'Église catholique a toujours enseigné qu'il y a une double peine en enfer, la peine des sens et la peine du dant. La peine du dant, c'est la séparation définitive avec Dieu, elle va s'arrêter, s'adresser surtout à l'âme. La peine des sens, le feu physique de l'enfer, s'adresse, lui, ce feu s'adresse évidemment plus au corps. Mais actuellement, puisque les corps ne sont pas en enfer, pas encore, l'âme va donc souffrir aussi cette peine des sens. La peine des sens est une peine pour les damnés, même si le corps n'est pas encore en enfer. C'est l'enseignement de l'Église. Alors, saint Thomas va préciser un peu les choses. Ce qui exige l'union de l'âme et du corps ne saurait demeurer dans l'âme séparée. Or, toutes les opérations des puissances sensibles exigent cette union, puisque toutes exercent leur activité par l'entremise d'un organe corporel. Cette activité doit donc être refusée à l'âme séparée. C'est là, effectivement, où il y a un mystère. C'est-à-dire, comment est-il possible pour une âme qui est une substance spirituelle, on peut dire que l'âme est un peu comme L'âme séparée du corps, c'est un peu comme un pur esprit, si vous voulez. Comment est-il possible pour une âme de souffrir la peine d'essence? Hein? Souffrir la peine d'essence, ça c'est un grand mystère, mais c'est un mystère insondable. Et c'est pas parce que ce mystère est incompréhensible pour l'esprit humain qu'il ne faut pas y croire. L'Église catholique l'a toujours enseigné. Donc, deux choses sont enseignées par l'Église sur l'existence de ce feu de l'enfer, on verra ça plus tard. D'abord, l'existence d'un feu de l'enfer qui va faire souffrir l'âme de peine indicible, mais en même temps, cette âme va souffrir dans le feu de l'enfer sans être consumée. Si vous mettez un bout de bois dans un feu, au bout d'un certain temps, le bout de bois disparaît, transformé en cendre complètement, il n'y a plus de bois. Hein. Tandis que l'âme en enfer souffre le feu de l'enfer, mais sans être consumée. Encore une fois, encore un grand mystère. Il faut avoir suffisamment d'humilité. Quand on médite sur les fins dernières, il faut beaucoup d'humilité. Sinon, on tombe dans l'orgueil et l'orgueil nous empêche de croire. Donc, saint Thomas va justement développer tout ça. C'est très intéressant de voir que dans le traité sur les fins dernières, toutes les objections auxquelles saint Thomas va répondre sont les mêmes objections qu'on entend aujourd'hui. Donc, il y a toujours les mêmes bêtises qui sont dites par les gens qui ne veulent pas se convertir. Temps de saint Thomas, c'était déjà vrai. Donc il se pose la question, c'est l'article 3 de la question 70, est-ce que l'âme peut souffrir d'un feu corporel? Donc voilà ce qu'il va répondre. Il va citer le texte de l'Écriture sainte, « Allez, maudit au feu éternel qui a été préparé aux démons et à ses anges. » Les âmes séparées peuvent donc souffrir d'un feu corporel. Hein? Ensuite, il va donner la réponse. La punition, dit-il, doit correspondre à la faute. L'âme s'est faite l'esclave du corps en cédant à ses convoitises coupables, et donc juste qu'elle devienne comme le souffre-douleur d'une créature matérielle. Il est évident que la peine de l'enfer en tant que telle, c'est beaucoup plus la peine du damné, c'est-à-dire la séparation définitive éternelle d'avec Dieu, que la peine d'essence. La peine d'essence est une peine qu'on peut comprendre plus facilement parce qu'on peut tout à fait méditer sur l'existence d'un feu, on sait vraiment ce que c'est qu'un feu, alors que la peine du damné, séparation définitive d'avec Dieu, est encore une chose qu'on a bien du mal à comprendre ici-bas sur la terre. N'oubliez pas que la très sainte Vierge Marie, meilleure ne peut être, hein, la femme la plus douce qui ait jamais été créée, mais la plus aimante qui ait jamais été créée, notre Sainte Vierge Marie, lorsqu'elle est apparue aux enfants de Fatima en 1917, a voulu que les enfants de Fatima voient les peines de l'enfer. Hein? Comme un lac de feu et de soufre, dit Lucie de Fatima, avec les âmes dans le feu de l'enfer, comme des étincelles dans un immense brasier. Il faut méditer là-dessus. Hein? Et les enfants de Fatima, les trois enfants de Fatima, ont dit après, si la très sainte Vierge Marie ne nous avait pas promis qu'on irait au ciel, nous serions alors morts d'épouvante. Morts d'épouvante. Donc, c'est dans l'ordre que l'âme qui, par le péché, s'est faite l'esclave des choses corporelles pour jouir, le soit aussi pour être punie. Alors, on avance. Je vous donne que les parties saillante, si vous voulez, de ces articles. Vous pourriez tout lire, hein, ceux qui le peuvent. Je vous conseille beaucoup, encore une fois, de lire complètement les articles de saint Thomas. Le but de ce cours, c'est de vous faire aimer saint Thomas et vous faire désirer étudier directement le texte complet de la Sonne. Donc, saint Thomas va citer saint Grégoire le Grand, qui a beaucoup parlé. Voilà ce qu'il dit. « Dès lors que la vérité déclare le mauvais riche de l'évangile condamné au feu, quel homme sage pourrait nier que le feu est la prison des réprouvés ?» Hein? Ensuite, il cite Julien, évêque de Tolède en Espagne, « Si l'âme qui est spirituelle est détenue dans le corps pendant la vie, pourquoi après la mort ne serait-elle pas détenue dans le feu corporel ?» Hein? Et saint Augustin dit aussi que de même que dans l'homme, l'âme est unie à un corps malgré leurs différences de nature et en conçoit pour lui un violent amour, de même unie au feu comme la victime à son bourreau, elle en conçoit une indicible horreur. Mais, par sa nature même, dit saint Thomas, le feu peut servir de lieu à un être incorporel comme l'âme. Comme instrument de la justice divine, non seulement elle lui est unie, mais il le retient captif. Et par là, en toute vérité, il est pour lui une cause de souffrance, et cet esprit, voyant dans le feu la cause de sa souffrance, est tormenté par le feu. Oui, donc tous les pères de l'Église ont dit la même chose. Il ne faut pas oublier toutes ces choses-là. Je conseille beaucoup pour ceux qui ont besoin de se rafraîchir un peu les idées sur ces points du catéchisme de lire le livre de Ricard Torrens, qui est remarquable justement sur ce sujet, qui s'appelle Du nombre des élus, qui a été réédité il n'y a pas longtemps, l'édition Saint-Rémy. Alors, saint Thomas conclut cette question 70. Si la gloire des élus ne subit aucune diminution, ni quant à la récompense essentielle, ni quant à la récompense accidentelle, lorsqu'ils sont hors du ciel, en pyrée, qui constitue une certaine portion de leur gloire, la peine des damnés n'est pas non plus diminuée lorsque la providence leur permet de sortir momentanément de l'enfer. Alors, ici se rajoutent deux articles supplémentaires qui sont placés dans certaines éditions de la Somme à la fin du supplément de la Somme théologique de saint Thomas. Donc, c'est des articles qui sont de saint Thomas, mais qui sont pas placés à cet endroit-là. Et dans certaines éditions, dans l'édition que je suis actuellement en français, il est placé à ce niveau-là. Je vous lis la note qui est dans l'édition de la Revue des Jeunes. Nous suivons l'ordre de Nicolaï qui intercale ici, comme bien à leur place, ces deux questions de la condition des âmes en état de péché originel et du purgatoire, au lieu de les mettre en appendice, comme le fait l'édition léonine. Hein? Donc, c'est le même, c'est toujours le texte de saint Thomas d'Aquin, mais qui est placé à deux endroits différents selon les éditions. Alors, saint Thomas, donc, dans cette question, donc on appelle question 70-1, pour bien marquer que c'est des choses qui sont intercalées et qui sont encore de saint Thomas d'Aquin, se pose la question de savoir la condition, de connaître la condition des âmes en état de péché originel. Donc, il se pose la question d'abord de savoir si le péché originel mérite par lui-même la peine du sens, c'est-à-dire la peine du feu. Donc, voilà ce qu'il répond. Les deux éléments du péché actuel se retrouvent dans le péché originel. L'aversion de Dieu correspond à la privation de la justice originelle. La conversion vers les biens créés correspond, et à la conversion vers les biens créés correspond la concupiscence. N'oublions pas que c'est la définition du péché, aversio ad Deo, conversio ad creatura. Ce péché, c'est quoi? C'est se détourner de Dieu, aversio ad Deo, pour se convertir à la créature, conversio ad creatura. Ad creaturas. Donc, il y a deux choses, si vous voulez, dans le péché, deux conséquences du péché, deux actes dans le péché. D'abord, on se détourne de Dieu, on met le bon Dieu dehors, on ouvre la porte de notre âme pour demander au bon Dieu de quitter notre âme par le péché mortel, et ensuite, on remplace le bon Dieu par quelque chose de créé. Une créature quelconque, ça peut être de l'argent, ça peut être une bouteille de vin, ça peut être un homme, ça peut être une femme, ça peut être un peu n'importe quelle créature. Et donc, il y a deux éléments, si vous voulez, dans le péché. Une partie plus matérielle, et qui est la conversion, c'est-à-dire le retournement de l'âme vers la créature, et une partie plus spirituelle, qui est se détacher de Dieu. Et donc, il y a deux conséquences du péché pour l'âme qui meurt dans le péché mortel. D'une part, une partie plus spirituelle qui correspond au détournement de Dieu, le fait qu'on se détache de Dieu, c'est la peine du damné, la peine par laquelle on est séparé de Dieu pour toute éternité, et une partie qui va correspondre au fait que dans le péché mortel, on se tourne vers la créature qui remplace Dieu, donc on transforme la créature en Dieu, on divinise la créature, et cela va correspondre à la peine des sens. Donc, là encore une fois, c'est un autre exemple ici de partie où il faut bien lire complètement le texte de saint Thomas parce que certaines parties vont compléter les premières parties. D'abord, saint Thomas cite saint Augustin qui dit que la peine à laquelle sont condamnés les enfants pour le seul péché originel, c'est-à-dire que ça correspond donc au limbe des enfants, est la plus légère de toutes. Et juste après, il va dire, le péché originel ne mérite donc pas la peine des sens. Donc, c'est l'enseignement de l'Église que les enfants qui sont au limbe parce qu'ils meurent avec le péché originel, donc sans le baptême, ne peuvent pas aller au ciel à cause de ce péché originel. J'ai déjà expliqué que le péché originel est un obstacle absolu à la montée au ciel. Donc, un enfant, un bébé, l'âme d'un bébé qui meurt, quand un bébé meurt sans baptême, il ne peut pas aller au ciel à cause du péché originel. Cependant, comme il n'est pas responsable d'aucun péché personnel, il n'y a donc aucune raison qu'il ait une peine d'essence. Par contre, il y a une peine spirituelle qui est la peine, la peine qu'on appelle la peine du damne, c'est-à-dire une séparation avec Dieu. Mais j'ai déjà expliqué que la peine du damne chez les damnés de l'enfer et la peine du damne chez les enfants, les âmes des enfants, dans les âmes des enfants, n'est pas du tout la même, dans le sens que une âme qui est en enfer, parce que cette personne est morte en état de péché mortel, cette âme en enfer va avoir cette peine du damné épouvantable parce qu'elle sait qu'elle a été créée pour Dieu. Elle sait qu'elle a été créée pour Dieu, elle sait qu'elle a reçu au cours de sa vie sur la terre toutes les grâces nécessaires pour se sauver, que par sa propre faute, elle a perdu justement cette union à Dieu de façon définitive, qu'elle ne pourra jamais voir Dieu. Cela va pousser cette âme à tomber dans un désespoir absolu, on appelle aussi le ver rongeur, le ver de la conscience. Elle sait qu'elle a perdu Dieu, elle sait qu'elle a été créée pour Dieu, elle sait qu'elle a reçu au cours de sa vie sur la terre toutes les grâces nécessaires pour se convertir et qu'elle a tout refusé par sa bêtise. Au contraire, l'âme l'âme des enfants morts sans baptême ignore tout de Dieu. Donc, c'est la différence. Donc saint Thomas dit bien que le péché originel ne mérite donc pas la peine du sens donc pour ces âmes des enfants dans l'enfer l'âme des enfants morts sans baptême. Alors voilà ce que dit saint Thomas. Saint Thomas précise donc que, en parlant des âmes des enfants morts sans baptême, il dit cette personne ne mérite pas d'autre punition que la privation de la faim que le bien perdu était destiné à atteindre et qui dépasse la nature humaine laissée à sa seule force, c'est-à-dire la vision de Dieu. Ainsi donc, ne pas voir Dieu est la punition spécifique et unique du péché originel dans l'autre vie. Donc il y a quand même une certaine punition pour les âmes des enfants morts sans baptême. Mais ils n'en souffrent pas, justement, parce qu'ils ignorent tout de l'existence de Dieu. J'ai déjà expliqué. Alors, saint Thomas continue de préciser les choses avec une question très importante. L'article 2 de cette question 70-1, la peine du damné fait-elle souffrir l'âme des enfants morts sans baptême ? J'ai un petit peu expliqué tout ça, on va voir un petit peu le texte même des enfants. Saint Thomas explique bien que l'âme des enfants, sous-entendu les enfants morts sans baptême, n'éprouve aucune souffrance extérieure. Aucune souffrance extérieure. Alors, pour tous ces passages-là, attention, donc, on touche ici à la doctrine de l'Église concernant le sort des enfants morts sans baptême. Il ne faut surtout pas utiliser son cœur, il faut utiliser son intelligence éclairée par la foi. Donc, dans ce domaine-là, dans ces parties du catéchisme qui sont difficiles à accepter, surtout pour les mamans qui ont perdu un enfant qui est mort en couche, ou la maman qui a fait malheureusement une fausse couche, donc qui a perdu son bébé dans son sein, souvent viennent voir le prêtre un peu en pleurs en nous disant: Monsieur l'abbé, mais j'espère que mon enfant est au ciel. Ben, si votre enfant est mort sans baptême, il ne peut pas être au ciel, madame, puisque le baptême empêche la montée au ciel. Et parfois, les mamans se révoltent en disant: mais c'est complètement injuste. Et non, madame, ce n'est pas injuste, parce que cet enfant ne souffre pas et ignore tout de Dieu. Et il vaut sans doute mieux pour lui d'être dans les limbes, ou au moins il est heureux dans le sens qu'il ne souffre pas, plutôt que d'avoir vécu sur la terre peut-être pendant 80 ou 90 ans et malheureusement de se damner. Dieu, dans sa miséricorde, qui sait que telle âme qui est actuellement dans le sein de sa mère ou à la naissance du bébé, que telle âme va se damner, dans sa miséricorde, peut prendre l'âme justement avant la, la, la vie sur la terre, la vie hors du sein maternel, justement pour sauver, pour que cette âme ne souffre pas. Donc il faut vraiment faire très attention, et dans ce domaine-là, ne pas chercher à réagir avec les sens. Alors je réponds tout de suite à une objection qu'on entend très souvent, de mamans qui nous disent, mais monsieur l'abbé, j'ai eu un baptême de désir pour mon enfant, donc il est sauvé. Attention, le baptême de désir n'est possible que par la personne même. On a un baptême de désir pour soi-même. On peut prier pour le baptême de l'enfant, on peut prier pour que son bébé qui est dans votre sein, au sein du maman, puisse apparaître à la lumière du jour et être baptisé au plus vite, ça bien sûr, mais vous ne pouvez pas avoir un baptême de désir pour quelqu'un d'autre. Donc, vous pouvez désirer le baptême du prochain, mais vous ne pouvez pas avoir un baptême de désir pour quelqu'un d'autre, parce qu'il faut un acte de la volonté propre pour avoir élicité un baptême de désir. Voilà donc ce que dit saint Thomas. Je dis donc que tous les hommes ayant l'usage de leur libre arbitre sont capables d'obtenir la vie éternelle, puisqu'ils peuvent se préparer à la grâce qui en est le moyen. Dès lors, s'ils y manquent, ils concevront une souveraine douleur d'avoir perdu ce qu'ils pouvaient posséder. Or, cette capacité, donc l'usage du libre arbitre, a toujours fait défaut aux enfants. On parle ici des bébés juste après qui meurent juste après la naissance. La vie éternelle ne leur était point due de par leur nature, dont elle dépasse totalement les exigences, et par ailleurs, ils ne pouvaient faire aucun acte personnel méritoire d'un si grand bien. Donc, ils ne s'affligent en aucune part de ne pas voir Dieu, et d'autre part, ils se réjouissent d'avoir une large part au bien dont Dieu est la source, et de posséder tous les dons naturels qui tiennent de lui. C'est pour ça qu'on dit que les enfants qui sont dans les limbes des enfants morts sans baptême ont un bonheur naturel, un bonheur philosophique. Alors, nous allons arrêter là, et la prochaine fois, Dieu aidant, nous étudierons donc la question 70-2 sur le purgatoire. Je pense, n'oubliez pas ce que je vous ai dit, je vais terminer par cela, que les points de doctrine les plus importants sont les points qui sont précisément niés par les modernistes dans l'Église de Vatican II. Or, les modernistes nient tous, pratiquement tous, l'existence des limbes pour les enfants morts sans baptême. Alors, ça prouve à quel point il est important, surtout aujourd'hui, de rappeler la doctrine traditionnelle de l'Église sur ce sujet. Donc nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, Saint Pédis, priez pour nous, Saint Joseph, priez pour nous, Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous, au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.